Chapitre 25. On a réussi. On l'a fait. Le salut de la terre est à mes pieds dans une petite cuve. Heureux, s'enthousiasme Rocky. Heureux, heureux, heureux. J'ai tellement le vertige que j'ai presque envie de vomir. Oui, mais ce n'est pas tout à fait terminé. Je me sangle à mon fauteuil. Un oreiller tente de s'envoler au loin, mais je le rattrape et le coince derrière ma tête. Je suis sur les nerfs, mais si je ne vais pas dormir bientôt, Rocky va commencer à me harceler. On a failli gâcher une mission une seule malheureuse fois, et on se retrouve à devoir faire la sieste sous la surveillance d'un extraterrestre.
Tomib, 35, beaucoup, beaucoup générations nécessaires, mais enfin succès.
Les percées scientifiques procurent un sentiment étrange. Il n'est pas question de révélation, d'un moment eureka. Les progrès sont lents qui nous rapprochent de l'objectif. Une fois celui-ci atteint toutefois, qu'est-ce qu'on se sent bien. Il y a plusieurs semaines désormais que nous avons relié nos deux navires. Rocky était tellement soulagé d'avoir de nouveau accès à un espace plus vaste. Dès notre arrivée, il s'est empressé de raccorder directement son habitacle dans le Dernière Chance au spot A. Il a fallu pour cela pratiquer un nouveau trou dans la coque, mais j'ai appris à faire confiance à Rocky et à ses compétences d'ingénieur. En vérité, je serais même prêt à le laisser m'opérer à cœur ouvert. Ce mec a vraiment un talent incroyable. Les vaisseaux étant reliés, je ne peux pas activer ma centrifugeuse, et je suis donc de retour en apesanteur. Maintenant que nous nous limitons à élever des tomib dans des cuves, je peux me passer de mon matériel de laboratoire. Au fil des semaines, nous avons vu les générations de tomib se succéder et devenir de plus en plus résistantes à l'azote. Jusqu'au tomib 35, une lignée capable de survivre à 3,5% d'azote dans une pression de 0,02 atm, soit dans les conditions de Vénus.
« Vous pouvoir être heureux maintenant ?» me dit Rocky, installé à son établi.
« Je le suis, bien sûr. » Mais nous devons atteindre 8% pour qu'elle puisse survivre dans les conditions de monde 3. Nous n'avons pas terminé.
Oui, oui, oui. Mais moment important. Très important.
Ouais. Acquiesçais-je dans un sourire. Il s'active sur un nouveau gadget. Il travaille toujours sur quelque chose.
Maintenant, pouvoir créer atmosphère Vénus dans cuve pour expérience poussée sur Tomib 35, question?
Non. Nous allons continuer sur notre lancée jusqu'au Tomib 80, qui devrait marcher comme on veut sur Vénus et Monde 3. Je commencerai les tests à ce moment-là.
Compris.
Je me retourne vers sa partie du vaisseau. Cela ne me dérange plus du tout d'être observé pendant mon sommeil. À vrai dire, c'est même assez réconfortant. Sur quoi travaillez-vous? L'appareil est fixé à son établi pour lui épargner de flotter n'importe où. Rocky travaille dessus avec plusieurs outils différents simultanément, sous des angles multiples.
Unité électrique terrienne.
Vous faites un convertisseur de courant?
Oui, pour convertir amplitude électrique séquence primordiale éridienne en système de courant continu inefficace terrien.
Séquence primordiale?
Trop difficile, expliquer.
Je note mentalement de lui poser la question plus tard. D'accord. À quoi va-t-il vous servir? Il pose deux outils et en prend trois autres.
Si plan fonctionnait, nous produire bonne tomib, moi donner carburant, vous rejoindre Terre et moi Éride, nous dire au revoir.
Oui, j'imagine, marmonnai-je. Je devrais être heureux de survivre à une mission suicide, de rentrer chez moi en héros et de sauver mon espèce. Dire adieu à Rocky, cependant, ne sera pas facile. Je préfère ne pas y penser pour le moment.
Vous avoir nombreuses machines intelligentes, moi demander faveur. Vous offrir une, question.
Un ordinateur portable? Vous voulez un ordinateur? Bien sûr, j'en ai plusieurs.
Bien, bien. Machine intelligente, avoir information, question. Données scientifiques terriennes, question.
Ah, évidemment. Je suis le représentant d'une espèce inconnue et avancée, dont les connaissances scientifiques dépassent de très loin celles des Éridiens.
Je crois que les ordinateurs portables sont équipés d'un disque dur d'au moins 1 teraoctet. Je pourrais y enregistrer l'intégralité de Wikipédia.
Oui, on peut arranger ça. Le problème, c'est que mes ordinateurs ne fonctionneront pas dans l'air iridien, à cause de la chaleur.
Ceci, élément de système de support vie pour machine intelligente,
explique-t-il en désignant son appareil.
Système fournir énergie et maintenir température terrienne. Beaucoup système redondant. Empêcher machine intelligente tomber en panne. Si panne, iridien incapable réparer.
Oui, je vois, mais comment comptez-vous lire les données?
Caméra interne convertir lumière en texture, comme caméra dans salle de contrôle. Avant départ, vous expliquez comment déchiffrer langage écrit.
Il connaît assez bien l'anglais désormais pour chercher dans le dictionnaire les mots qu'il ne comprendra pas. Ouais, pas de problème. Notre langage écrit est simple. Enfin, relativement simple. Il n'utilise que 26 caractères, qui se prononcent cependant de manière très variée. Enfin, disons plutôt qu'il y a 52 caractères, vu que les majuscules sont différentes même si la prononciation ne change pas. Ah, il y a aussi la ponctuation.
Nos savants résoudre énigme. Vous simplement mettre moi sur bonne voie.
Nous ferons ça, confirmai-je. Moi aussi je veux un cadeau. La xénonite. La forme solide et la forme liquide. Pré-xénonite. Ils vont beaucoup intéresser les scientifiques de ma planète.
Oui, moi donné.
Je crois que je vais dormir un peu, dis-je en bâillant.
Moi observé.
Bonne nuit, Rocky.
Bonne nuit, Grace.
Je m'endors bien plus rapidement que ces dernières semaines. J'ai produit des tomibes capables de sauver la Terre. Modifier une forme de vie extraterrestre. Rien de plus facile, si? Non? Quand j'étais gamin, comme la plupart des gamins, je m'imaginais ce que pouvait ressentir un astronaute. Je rêvais également de voler dans l'espace à bord d'une fusée, de rencontrer des extraterrestres, d'être quelqu'un d'extraordinaire en somme. En revanche, je ne rêvais jamais de nettoyer les fosses septiques. Mais c'est en gros ce à quoi je passe ma journée. Je précise que je ne nettoie pas mon propre caca, mais celui des tomibes. Des milliers de kilogrammes de caca de tomibes. Les 7 réservoirs qui me restent doivent être parfaitement propres pour accueillir du carburant. Alors c'est vrai que je ramasse de la merde, mais au moins le fais-je dans une combinaison d'AEV. J'ai déjà senti l'odeur de ce truc et je peux vous dire que ce n'est pas très agréable. La pâte de méthane et de cellules en voie de décomposition n'est pas un problème en soi. S'il ne s'était agi que d'elle, je ne m'en serais pas occupé. 20 000 kilogrammes de bouillie dans des réservoirs pouvant contenir 2 millions de kilogrammes, ce n'est pas grand-chose finalement. Le problème, c'est qu'il y a sûrement des tomibes vivantes là-dedans. La contamination a eu raison de tout le carburant disponible il y a plusieurs semaines de cela, aussi les prédateurs sont-ils sans doute presque tous morts de faim. C'est ce que j'ai conclu de l'examen récent d'un échantillon de tomibes. Mais il y a des survivantes, forcément, auxquelles je n'ai aucune envie de fournir 2 millions de kilogrammes d'astrophages frais.
Progrès, question.
J'ai presque terminé le réservoir numéro 3. Je suis à l'intérieur du réservoir, où je racle les parois avec une spatule de fortune, et je jette la bouillie immonde par le trou d'un mètre de diamètre pratiqué sur le côté. D'où vient ce trou? C'est moi qui l'ai découpé. Il n'y a pas de trou d'homme dans ces réservoirs. Rien d'étonnant à cela. Des tuyaux et conduits y entrent et en sortent, mais les plus gros d'entre eux ne mesurent que quelques centimètres du diamètre. Comme je ne dispose pas de 30 000 litres d'eau, il m'est impossible de rincer les réservoirs. Aussi n'ai-je d'autre choix que de découper un trou dans les réservoirs pour les nettoyer à la main, avant de reboucher les ouvertures. En revanche, force m'est d'admettre que le chalumeau que m'a fabriqué Rocky fonctionne comme un charme. Un peu d'astrophage, des IR, quelques lentilles, et j'ai un véritable rayon de la mort dans les mains. Le secret, c'est de limiter la puissance de sortie. Rocky y a néanmoins incorporé plusieurs sécurités. Les lentilles contiennent des impuretés et ne sont pas constituées de xénonite transparente,
Elles sont en verre perméable au OIR. Si les astrophages émettent trop de lumière, les lentilles fondront, et le faisceau ne sera plus assez concentré pour que le chalumeau coupe quoi que ce soit. Si cela devait se produire, il me faudrait supplier Rocky de m'en fabriquer un autre. Mais au moins n'aurais-je pas perdu une jambe dans le processus. Pour le moment, rien de fâcheux ne s'est produit, mais j'ai appris à ne pas crier victoire trop vite. Je racle une tache de Tomib particulièrement récalcitrante. Une fois décollée, elle flotte dans le réservoir et je l'expédie dehors d'un coup de spatule. État des cuves de Tomib?
Cuve numéro 3, avoir toujours Tomib vivante. Numéro 5 et au-dessus, toute morte.
J'avance un peu dans le réservoir. Celui-ci est assez étroit pour que je puisse m'immobiliser en appuyant mes bottes d'un côté et une main de l'autre. Cela me laisse une main pour gratter la saleté. La cuve numéro 4 était à 5,25%, n'est-ce pas?
Non, 5,20%.
D'accord. On en est donc au Tomib 52. Ça avance.
Vous progressez, question?
Lentement, mais oui. Je jette une plaque de bouillie dans le vide. J'aimerais tellement pouvoir injecter dans ces réservoirs une bonne dose d'azote pour en finir. Après tout, ces tomibla n'auraient aucune chance de résister à ce traitement. Cela ne marcherait pas cependant, car la crasse a plusieurs centimètres d'épaisseur. Je pourrais injecter tout l'azote du monde, il resterait forcément des tomibes sous la couche épaisse de leur sœur morte. Il suffirait d'une seule survivante pour infester le carburant que me donnera Rocky. Je suis donc contraint de frotter les réservoirs consciencieusement avant d'y injecter effectivement de l'azote pour finir le boulot.
Réservoir très grand. Assez azote pour nettoyer, question. Support vie spot A, avoir beaucoup ammoniaque.
L'ammoniac ne marcherait pas. Les tomibes résistent parfaitement aux composés d'azote. Seul le N2 les embête. Mais ne vous en faites pas. Je n'ai pas besoin de tant d'azote que cela. Nous savons que 3,5% à 0,02 ATM tuent les tomibes naturels. C'est une pression partielle de moins d'un pascal. Les moteurs ne mesurent que 37 mètres cubes chacun. Il me suffit donc de libérer à peine quelques grammes d'azote pour tout nettoyer. L'azote est un poison terrible pour les tomibes. Je mets mes mains sur mes hanches. Position maladroite quand on est vêtu d'une combinaison d'AEV et qui me fait flotter loin de la paroi, mais elle s'impose à la situation, me semble-t-il. Bien. J'en ai fini avec le réservoir numéro 3.
Besoin xénonite pour reboucher trou maintenant, question?
Je flotte hors du réservoir dans l'espace. Je tire sur mon filin pour me ramener vers la coque. Non, je préfère faire tout le nettoyage d'abord. Puis effectuer une nouvelle AEV pour reboucher les trous. Je me sers des poignées pour me diriger vers le réservoir numéro 4, où je m'attache avant d'allumer l'astrochalumeau éridien. La xénonite fait d'excellents récipients pressurisés. Mes réservoirs sont tous propres et scellés. J'y ai injecté 100 fois plus d'azote que la dose normalement mortelle pour d'éventuels tomibes naturels. Puis je l'ai laissé là un certain temps. Pas question de prendre le moindre risque. Après quelques jours de stérilisation, le temps est venu d'effectuer des tests. Pour cela, Rocky me donne quelques grammes d'astrophage. Je me rappelle le temps où l'équipe de Strat se serait damnée pour quelques kilogrammes d'astrophage. Les temps ont changé, et je manie les trillions de joules comme si de rien n'était. Je divise les astrophages en 7 paquets égaux, que j'injecte dans chacun des réservoirs en même temps que de l'azote. Et puis j'attends une journée. Pendant ce temps, Rocky reste à bord de son vaisseau, où il travaille à un système de pompe pour transférer une partie de son carburant dans mes réservoirs. Je lui propose mon aide, mais il décline poliment. Que pourrais-je bien faire à bord du spot A? Ma combinaison d'AEV étant incapable de résister à un environnement iridien, Rocky devrait me fabriquer un réseau de tunnels. Non, cela n'en vaudrait pas la peine. Et pourtant, j'aurais tellement voulu y aller. Zut, c'est quand même un vaisseau extraterrestre. À quoi ressemble-t-il à l'intérieur? La priorité reste cependant de sauver l'humanité. Mouais, cela se comprend.
Je vérifie les réservoirs. Si des tomibes ont survécu à mon traitement de choc, elles ont dû se repaître de ces nouveaux astrophages. Si ceux-ci sont toujours là, alors le réservoir est stérile. Trêve de suspense, 2 réservoirs sur 7 ne le sont pas.
Hey, « Hé, Rocky »
criai-je depuis la salle de contrôle. Il est quelque part dans son vaisseau, mais je sais qu'il m'entend. Il m'entend toujours. Après quelques secondes, la radio se met à crachoter.
« Oui, question ?»«
Il reste des tomibes dans 2 réservoirs. »«
Compris. Pas bonne nouvelle, mais pas mauvaise. 5 autres propres, question ?»
J'agrippe une poignée pour me stabiliser. Il est facile de dériver sans s'en rendre compte quand on est concentré sur une conversation.
« Oui, les autres sont propres. »«
Comment Tomib survivre dans 2 réservoirs, question ?»«
J'imagine que je ne les ai pas lavés assez bien. Il devait rester de la crasse, et sous cette crasse, des Tomib vivantes protégées de l'azote. C'est mon hypothèse. »«
Votre plan, question ?»
Je vais les nétoyer et les stériliser de nouveau. Les 5 autres resteront scellés pour l'instant.
Excellent plan. Pensez à purger du rite.
Tous les réservoirs ayant été infestés, il est logique de conclure que les conduits d'alimentation l'ont été aussi.
Ouais. Elles seront plus faciles à nettoyer que les réservoirs. Il me suffira d'y injecter de l'azote sous pression. Il chassera les résidus et stérilisera le reste. Après, je les testerai de la même manière que les réservoirs.
Bien, bien. État, cuve, tomib, question.
Ça avance doucement. On en est au tomib 62.
Un jour découvrir pourquoi azote problématique.
Ouais, mais je laisse ça à d'autres. Notre objectif est d'engendrer des tomib 80.
Oui, tomib 80. Peut-être tomib 86, par sécurité.
Quand on pense en base 6, il est naturel d'ajouter 6 à un nombre de façon arbitraire.
« Je suis d'accord, » acquiesçais-je.
J'entre dans le sas et je monte dans la combinaison Orlan. J'attrape l'astro-chalumeau que j'accroche à mon ceinturon. Et puis j'allume la radio de mon casque et je lance.
« Je commence la EV. »«
Compris. Appelé par radio si problème. Intervention possible grâce à robot Spot A. »
Cela ne devrait pas être nécessaire, mais je ne manquerai pas d'appeler à l'aide en cas de besoin.
Je referme la porte du sas et démarre le cycle de dépressurisation. Et puis merde! Je confirme le largage du réservoir numéro 5. Il y a une détonation et le réservoir se détache pour s'éloigner dans le néant. Car j'ai eu beau frotter, récurer, purger à l'azote, je ne suis pas parvenu à stériliser le réservoir numéro 5. Chaque fois, il restait des tomibes pour se repaître des astrophages que j'y injectais. Parfois, il faut savoir renoncer. Je croise les bras et m'affaisse dans le fauteuil du pilote. Enfin, pas vraiment, car il n'y a pas de pesanteur. Aussi dois-je faire un effort conscient pour m'enfoncer dans le capitonnage. Je boude et j'ai l'intention de faire cela dans les règles de l'art. J'ai donc perdu 3 de mes réservoirs, 2 au-dessus d'Adriane et 1 maintenant. Je dois donc faire une croix sur 666 000 kg de carburant. Aurais-je assez d'astrophages pour rentrer à la maison? Oui. En vérité, j'ai seulement besoin d'assez de carburant pour échapper à la gravitation de Tau Ceti. À condition d'avoir 1 million d'années devant soi, on peut même se contenter de quelques kilos d'astrophages. La question n'est donc pas de savoir quelle distance on peut parcourir avec une quantité donnée de carburant, mais plutôt celle du temps qu'on veut passer dans l'espace. Après quelques calculs savants, j'aboutis à un résultat qui ne me plaît pas du tout. Le voyage entre la Terre et Tau Ceti a duré 3 ans et 9 mois, avec une accélération constante d'1,5G. D'après la docteure Lamaille, il aurait été imprudent de soumettre le corps humain à une accélération supérieure à cela pendant presque 4 ans. Pendant ce temps, 13 années se sont écoulées sur Terre. La dilatation temporelle marchait en faveur de l'équipage. Si j'entreprends le voyage du retour avec 1,33 million de kilogrammes, la capacité maximale des réservoirs qui me restent,
La trajectoire la plus efficace ne me permettra d'atteindre que 0,9 G. Une vitesse moindre signifie moins de dilatation temporelle, mais aussi plus de temps passé à bord du vaisseau. D'après mes calculs, 5 ans et demi. Et alors, me demanderez-vous, cela fait seulement 1 an et demi de plus. Je n'ai pas assez de provisions pour tenir si longtemps. Il s'agissait d'une mission suicide, après tout. Nous sommes partis avec quelques mois de nourriture normale. Quand je n'en aurai plus, il me restera la bouillie dispensée par le robot pendant le coma des passagers. Ce sera nutritif et équilibré, à défaut d'être bon. Encore une fois cependant, mission suicide oblige, il n'y aura pas assez de bouillie pour tenir jusqu'au bout. S'il en reste, c'est uniquement parce que le commandant Yao et la spécialiste Ilyukina sont morts. Tout compte fait, il me reste 3 mois de vraie nourriture et pour 40 mois de bouillie. Ça aurait peut-être été suffisant si j'avais eu tous mes réservoirs, mais cela ne suffira pas pour un voyage plus lent et plus long. La nourriture de Rocky ne m'est d'aucune utilité. Je l'ai testée encore et encore. Elle est pleine de métaux lourds, allant de toxique à très toxique. Elle contient également des protéines et des sucres dont mon organisme pourrait faire très bon usage, sauf qu'il n'y a aucun moyen de les séparer du reste. Et je n'ai rien à cultiver. Toutes mes rations sont lyophilisées et congelées. Je ne dispose ni de plantes ni de graines viables. J'ai mes réserves, un point c'est tout. J'entends les pattes de Rocky cliqueter comme il arrive dans son bulbe de la salle de contrôle. Il passe constamment du dernière chance au spot A, aussi m'est-il souvent impossible de dire où il se trouve.
Vous, furieux, pourquoi, question ?
Il me manque un tiers de mes réservoirs de carburant. Je n'ai pas assez de vivres pour le voyage de retour.
Combien de temps depuis dernier sommeil, question ?
Hein ? Je parle de carburant, soyez concentrés.
Mauvaise humeur, colère, stupide. Combien de temps sans sommeil, question ?
Je ne sais pas, réponds-je en haussant les épaules. J'ai travaillé sur les cuves, puis sur les réservoirs. Je ne sais pas à quand remonte ma dernière sieste.
Vous dormir, moi observer.
J'ai un très grave problème, m'emportai-je en désignant ma console d'un geste sec. Je n'aurai pas assez de carburant pour rentrer chez moi. Il m'en manque 600 000 kilogrammes. 135 mètres cubes, je ne les ai plus.
Moi, fabriquer réservoir.
Vous n'aurez pas assez de xénonite.
Xénonite, pas nécessaire. N'importe quel matériau solide faire l'affaire. Beaucoup métal à bord spot A. Fondre, modeler et fabriquer réservoir.
Vous pourriez faire ça ? Demandai-je en clignant 2 fois des yeux.
Évidence. Vous, stupide, besoin sommeil. Moi, observer et concevoir nouveau réservoir. D'accord, question.
Sur ce, il prend la direction du dortoir.
D'accord, question,
répète-t-il plus fort. Oui, marmonnai-je. Oui, d'accord. J'ai effectué un paquet d'AEV, mais la dernière était la plus fatigante, et de loin. J'ai passé plus de 6 heures dehors. L'Orlane est une vieille combinaison bien solide et robuste, mais on ne peut pas en dire autant de moi.
« J'installe le dernier réservoir !»
annonçai-je d'une voix sifflante. « J'y suis presque. Surtout, gardez le cap. » Les réservoirs ad hoc de Rocky sont parfaits, évidemment. Il m'a suffi de décrocher un de mes réservoirs et de le donner au robot se baladant sur la coque du spot A pour lui permettre de l'analyser. Quoi que l'iridien lui demande, le robot fait du bon boulot. Toutes les valves ont la bonne taille et sont là où elles doivent être. Les filetages pour les boulons sont correctement espacés. Comme promis, Rocky m'a fourni 3 copies parfaites de mes réservoirs. La seule différence, c'est le matériau. Les réservoirs originels sont en aluminium. Quelqu'un dans l'équipe de Strat avait proposé d'utiliser la fibre de carbone, mais elle avait refusé. Des technologies éprouvées, voilà ce qu'elle voulait. Et l'humanité fabriquait des engins spatiaux en aluminium depuis plus de 60 ans. Les nouveaux réservoirs sont constitués d'un alliage. Quel alliage? Aucune idée. Et Rocky n'en sait pas tellement plus. Disons que c'est un mélange de métaux issus de systèmes non critiques du spot A. Principalement du fer, mais Rocky m'a dit qu'il avait mélangé au moins 20 éléments différents dans un ragoût de métaux. Cela ne pose pas de problème, toutefois. Les réservoirs n'ont pas besoin d'être capables de résister à de hautes pressions, simplement de contenir des astrophages. Ce qui implique bien sûr qu'ils ne soient pas disloqués par l'accélération. Mais ce n'est pas une grande contrainte. Des réservoirs en bois auraient été tout aussi efficaces.
Vous, trop lent.
Et vous, méchant. Me défends-je en fixant le réservoir à sa place à l'aide de sangles.
Excuse, grande excitation. Cuve numéro 9 et 10.
Ouais, on croise les doigts. Nous en sommes au Tomib 78. Cette dernière génération se reproduit dans les cuves pendant que je travaille sur les réservoirs. L'écart est de 0,25%, ce qui signifie que pour la première fois, certaines cuves contiennent 8% d'azote ou plus. Pour ce qui est de l'installation des réservoirs, j'ai appris que le premier boulon est le plus dur à serrer. Les réservoirs ont beaucoup d'inertie, aussi est-il difficile de bien aligner les trous. Sans compter que le système de montage originel n'est plus là. Les explosifs se sont chargés de leur largage. Personne n'aurait pu prévoir que j'installerais de nouveaux réservoirs après m'être débarrassé des anciens. Les explosifs ne se contentent pas d'ouvrir des verrous. Ils arrachent purement et simplement les boulons sans se soucier des dégâts causés au point d'ancrage. Finalement, je passe énormément de temps à faire que cette mission suicide n'en soit plus une. Si les trous filetés sont en bon état, chacun d'eux contient des morceaux de boulons pour le moins difficiles à dévisser en l'absence de tête. J'ai vite découvert que mes meilleurs amis pour ce travail étaient l'anode sacrificielle et l'astrochalumeau. Faire légèrement fondre le boulon, puis l'anode, et souder les deux. Le résultat est laid, mais il donne assez de prise et de force pour dévisser le boulon. En général. Quand je n'y parviens pas, je fais tout fondre, et le liquide s'écoule à l'intérieur. 3 heures plus tard, mes réservoirs sont installés, plus ou moins. Je pressurise le sas, sors de la combinaison Orlan et entre dans la salle de contrôle. Rocky m'attend dans son bulbe.
« Bien passé, question ?»
J'agite la main d'un air peu convaincu, geste étonnamment similaire dans les deux cultures, terrienne et iridienne. « Peut-être, je ne sais pas. Je n'ai pas pu réutiliser tous les trous comme je l'aurais voulu. Les réservoirs ne sont pas aussi solidement fixés que prévu. »
« Dangereux, question ?» Vaisseau accéléré à 15 mètres par seconde carré, question. Réservoir résisté, question.
Je n'en suis pas sûr. Les ingénieurs terriens ont l'habitude d'exagérer les normes de sécurité. J'espère que ces réservoirs ne font pas exception à la règle. Je vais tester tout ça.
Bien, bien. Assez parlé. Vérifiez cuve Tomib, s'il vous plaît.
Ouais, ouais. Permettez de boire un peu d'eau avant. Il descend dans le laboratoire en faisant cliqueter ses pattes et en rebondissant dans son tunnel.
« Pourquoi humain avoir besoin tellement haut ?» Question. « Forme de vie inefficace ?»
Je vide un litre entier d'eau laissé dans la salle de contrôle avant mon AEV. C'est sorti dans l'espace d'un soif. Je m'essuie la bouche et laisse la pochette flotter dans les airs. Prenant appui sur le mur, je me propulse vers le laboratoire. Les iridiens ont besoin d'eau aussi, vous savez.
Gardez eau à l'intérieur, système clos. Quelques défauts efficacité à l'intérieur, mais nous trouver eau dans nourriture. Humains fuir. Dégoûtant.
J'entre en riant dans le laboratoire où Rocky m'attend. Sur Terre, nous avons une créature effrayante et dangereuse appelée araignée.
Vous lui ressemblez beaucoup, je vous signale. Bien, fierté. Moi, monstre spatial effrayant. Vous, blob spatial avec fuite. Vérifiez cuve.
Insiste-t-il en désignant les récipients. D'un coup de pied dans la paroi, je me propulse vers les cuves. C'est le moment de vérité. Je devrais les vérifier une à une en commençant par la première, mais au diable le protocole. Je m'intéresse directement à la cuve numéro 9. Je pointe une lampe torche vers la lame de verre badigeonnée d'astrophage, puis je jette un coup d'œil à l'affichage alphanumérique, avant de regarder de nouveau la lamelle.
La lamelle de la cuve numéro 9 est parfaitement transparente, annonçai-je en souriant à Rocky. Nous avons nos Tomib 80.
S'ensuit une véritable explosion de bruit. Il agite les bras dans tous les sens, martelant les parois du tunnel de ses pinces. Il émet une myriade de notes aléatoires et incompréhensibles. Quelques secondes plus tard, il se calme.
Oui, bien, bien, bien.
Wow, du calme.
Je m'approche de la cuve numéro 10.
Hé, cette lame-là est transparente aussi. Nous avons des Tomib 82,5.
Bien, bien, bien.
Bien, 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 en effet.
Maintenant, faire nombreux tests. Air Vénus et Air Monde 3.
Oui, absolument.
Il trépigne, avance et recule, heurte le tunnel devant et derrière lui.
Exactement même gaz dans chaque test, même pression, même température, même radiation mortelle spatiale, même lumière émise par étoile voisine, même.
Oui, je vais faire ça. Je vais faire tout ça.
Faire maintenant.
J'ai besoin de repos. Je viens d'effectuer une AEV de 8 heures.
Faire maintenant.
Hein? Non.
Je flotte jusqu'au tunnel et le regarde à travers la xénonite.
Il faut d'abord produire encore des Tomib 82,5, histoire d'en avoir assez pour les tests. Je vais créer plusieurs colonies stables dans des contenants scellés.
Oui, dans Spot A aussi.
Bien sûr. Plus il y en aura, mieux ce sera.
Il continue de se balancer d'avant en arrière, de heurter la paroi du tunnel.
Éride, vivre, la Terre, vivre, tout le monde, vivre.
Il serre une pince et la plaque contre la xénonite.
Point contre point.
Oui, on appelle ça un check, mais ce n'est pas grave.
Il doit y avoir de l'alcool quelque part. Je n'imagine pas Ilyukina partir pour une mission suicide sans exiger d'emporter de l'alcool. À dire vrai, je ne l'imagine même pas traverser la rue sans emporter un peu d'alcool. Je fouille donc systématiquement tous les paquets rangés dans la réserve, et je finis par le trouver, dans les kits personnels. La boîte contient 3 sacs marins fermés par des glissières. Chacun est affublé d'une étiquette. Yao, Ilyukina et Dubois. Ils n'ont apparemment pas eu le temps de remplacer le kit personnel de Dubois par le mien. Je suis toujours furieux de la manière dont cela s'est passé. Peut-être que j'aurai l'occasion de dire à Strat ce que j'ai sur le cœur. Je remonte les kits dans le dortoir, où je les accroche au mur à l'aide de velcro. Les effets personnels de 3 personnes mortes. 3 amis défunts. Peut-être prendrai-je le temps plus tard, dans un moment de déprime, de voir ce que ces 3 sacs ont à offrir. En attendant, je veux de la gnôle pour fêter nos progrès. J'ouvre le sac d'Ilyukina et je découvre plein de bibelots divers. Un pendentif avec des écritures en russe. Un vieux nounours élimé, son doudou sans doute. 1 kilogramme d'héroïne. Certains de ses livres favoris et... 5 pochettes en plastique contenant un liquide transparent avec un mot en russe. Vodka. Comment le sais-je? J'ai passé des mois à bord d'un porte-avions avec une bande de scientifiques russes complètement siphonnés. Ce mot-là, je l'ai vu écrit plein de fois. Je referme la glissière de son sac, le raccroche au mur, puis je retourne en volant dans le labo où Rocky m'attend dans son tunnel.
J'ai trouvé!
Bien, bien.
Il ne porte plus son habituelle combinaison, ni son ceinturon chargé d'outils.
Hé, mais qu'est-ce que c'est que ça?
Il bombe sa carapace avec fierté. Elle est recouverte d'un genre de sous-vêtement lisse sur lequel sont fixées des formes symétriques rigides. On dirait une armure, sauf qu'elle ne le couvre pas complètement et que les plaques ne sont pas en métal. Le trou supérieur, là où se trouvent les ouvertures de son radiateur, est entouré d'un cercle de pierres précieuses non polies. C'est manifestement un bijou. J'avise des facettes, comme sur des pierres taillées par des joailliers terriens, Mais la qualité en est horrible. Il y a des taches, des décolorations. Elles sont grosses cependant, et je suis sûr qu'elles sont très belles perçues par un sonar. Les manches qui lui couvrent la moitié des membres sont également ornées de bijoux autour des manchettes. Chaque épaule est reliée à ses voisines par des cordons tressés, lâches. Et pour la première fois, je le vois porter des gants. 5 gants en toile de jute rêche, aurait-on dit.
Vous êtes très élégant.
Merci. Tenue spéciale pour jour de fête.
Et ça, boisson spéciale pour jour de fête.
Humain, manger pour célébrer, question.
Oui. Je sais que les Éridiens mangent à l'écart des autres, que vous trouvez ça grossier, mais c'est comme ça.
Pas de problème. Vous mangez, nous festoyez.
Je flotte jusqu'aux 2 expériences montées sur la table. L'une contient un équivalent de l'atmosphère de Vénus, l'autre de l'atmosphère de Monde 3. Dans les 2 cas, je me suis efforcé d'être aussi précis que possible. Je me suis servi de toutes les références dont je disposais, et j'en ai énormément, ainsi que des informations fournies par Rocky au sujet de son système. Dans les 2 cas, les Thomibes n'ont pas seulement survécu, elles ont pullulé. Elles se multiplient à un rythme inouï, et la plus petite quantité d'astrophages introduite dans leur environnement est immédiatement dévorée.
« Au Thomib 82,5 !»
lançai-je en levant ma pochette.
« Au salut de 2 mondes !»«
Vous donnez liquide au Thomib ?» question.
J'ouvre le bouchon de la paille. J'avale une gorgée de vodka. Non, c'est juste une façon de parler. J'honore les Thomib 82,5. Un incendie enfle dans ma bouche. Apparemment, Ilyukina aimait sa vodka forte, brutale.
Oui, honoré, honoré. Humains et Éridiens travaillaient ensemble, sauver tout le monde.
Ah, j'y pense. J'aurais besoin d'un système de support vie pour les Thomib. Quelque chose qui leur donne juste assez d'astrophages à manger pour maintenir la colonie en vie. Il devra être entièrement automatique et fonctionner tout seul pendant plusieurs années. Peser moins d'un kilogramme aussi. Et il m'en faudra 4.
Pourquoi si petit ? Question.
Je vais en mettre un dans chaque scarabée au cas où il arriverait quelque chose aux dernières chances sur le trajet.
Excellent plan. Vous intelligent. Moi faire ça pour vous. Aujourd'hui, transférez astrophages dans vos réservoirs. Machine-pompe terminée. Alors, nous rentrer maison.
Ouais, confirmai-je dans un sourire mélancolique.
Moment de joie. Pourquoi ouverture visage exprimer tristesse? Question.
Ce sera un très long voyage. Et je serai seul. Je ne sais pas si je prendrai le risque d'être plongé dans le coma une seconde fois. Je n'aurai peut-être pas le choix. Question de santé mentale. La solitude, ajoutée à la bouillie nutritive crayeuse, pourrait être trop difficile à supporter. Pour la première partie du voyage, cependant, je devrais rester éveillé.
Moi, manquez-vous ? Question. Vous manquez-moi ? Nous, amis.
Oui, vous allez me manquer. J'avale une autre gorgée de vodka. Vous êtes mon ami. Vous êtes mon meilleur ami même. Très bientôt, nous allons nous dire adieu. Il frappe dans 2 de ses pinces gantées. Au lieu du cliquetis dédaigneux habituel, elles produisent un bruit étouffé.
Pas pour toujours. Nous sauver planète, développer technologie astrophage, rendre mutuellement visite.
On peut faire ça en l'espace d'une 50aine d'années terriennes ? Demandai-je dans un sourire désabusé.
Probablement pas. Pourquoi si vite ? Question.
Il me reste peut-être 50 ans à vivre. Je répris ma hoquet. Les humains ne vivent pas très longtemps, vous vous souvenez?
Oh.
Il reste silencieux pendant quelques secondes.
Nous profiter tant rester ensemble, ensuite nous rentrer sauver planète, et nous devenir héros.
Ouais. Je me redresse. J'ai la tête qui tourne un peu. Je n'ai jamais été un gros buveur et j'ai dépassé ma dose habituelle.
On est les gars les plus importants de la galaxie. On est super cool.
Il attrape un outil tout proche et le brandit.
À nous.
Carrément. À nous.
Bon. Eh bien, ça y est,
dis-je à l'intérieur du connecteur, entre nos vaisseaux.
Oui,
répond Rocky de son côté. Malgré ses efforts, sa voix est plus grave qu'à l'accoutumée. Le dernier champ s'a fait le plein. 2,2 millions de kilogrammes d'astrophages. Soit 200 000 kilogrammes de plus que lorsque nous avons quitté la Terre. Les réservoirs de remplacement fabriqués par Rocky sont plus efficaces que les originaux, puisqu'ils offrent plus de volume. Je suppose que nos peuples vont se rencontrer de nouveau, reprends-je en me frottant la nuque. Je sais que les humains vont vouloir découvrir Eride.
Oui. Merci pour ordinateur. Siècles et siècles de technologie humaine pour scientifiques éridiens. Plus beau cadeau de l'histoire pour Éridiens.
Vous l'avez testé dans le système de support vie que vous avez conçu pour lui?
Bien sûr. Question stupide,
dit-il en agrippant une poignée pour se stabiliser. Rocky a démonté son tunnel d'accès direct pour reconnecter les deux sas et finir de faire ses bagages. À ma demande, il a laissé les compartiments et tunnels montés dans le dernier champ, avec quelques ouvertures d'un mètre de diamètre ici et là pour en permettre l'accès. Plus les scientifiques terriens disposeront de xénonites pour leurs expériences, mieux ce sera. Le vaisseau sent légèrement l'ammoniac. Il semblerait que la xénonite en ait absorbé un peu. L'odeur restera un certain temps, j'imagine. « Et vos fermes ?» demandai-je. « Vous les avez toutes vérifiées ?»«
Oui. 6 colonies Tomib 82,5 dans cuve avec système de support vie séparé, avec atmosphère monde 3 simulée. Vos fermes fonctionnaient, question ?»«
Oui. Enfin, j'ai juste mes 10 cuves, mais j'y ai simulé l'atmosphère de Vénus. »« Oh, et merci pour les mini-fermes, au fait. Je les installerai dans les scarabées pendant le trajet. » Je n'aurai pas grand-chose d'autre à faire.
Chiffre que vous donnez,
commence-t-il en étudiant un bloc-notes.
Trajet rapide, tellement court. Vous certain vos estimations, question.
Oui, c'est à cause de la dilatation du temps. C'est bizarre, je sais, mais ces valeurs sont bonnes, j'ai vérifié 4 fois. Vous atteindrez Éride en moins de 3 années terriennes.
Pourtant, Terre presque même distance de Tau-Ceti et vous mettre 4 ans. Pourquoi ? Question.
4 années s'écouleront pour moi, c'est vrai. Un peu moins. 3 ans et 9 mois. Le temps ne sera pas aussi compressé pour moi que pour vous.
Vous déjà expliqué, mais expliquez encore.
Votre vaisseau accélère plus vite que le mien. Votre vitesse sera plus proche de celle de la lumière que la mienne.
Tellement compliqué.
Se plaint-il en agitant sa carapace. La relativité est expliquée dans l'ordinateur, ajoutai-je en montrant la direction générale de son vaisseau. Vos scientifiques se pencheront sur la question.
Oui, eux, très contents.
Jusqu'au moment où ils découvriront la physique quantique. Là, ils seront très embêtés.
Pas comprendre.
Ne vous en faites pas pour ça, réponds-je en riant. Un silence s'installe et se prolonge. Bon, ben, je crois que ça y est.
Moment venu de sauver nos mondes.
Oui.
Votre visage, fuir.
C'est un truc humain, dis-je en essuyant mes yeux. Pas d'inquiétude.
Compris.
Il avance doucement jusqu'à la porte du sas. Il l'ouvre et s'interrompt.
Au revoir, ami Grace.
Au revoir, ami Rocky, réponds-je en agitant mollement la main. Il disparaît dans son vaisseau et referme la porte du sas dans son dos. Je retourne à bord du Dernière Chance. Quelques minutes plus tard, le robot du Spot A détache le tunnel. Nos deux vaisseaux volent presque en parallèle, quoique sur des trajectoires différentes de quelques degrés, le but étant qu'aucun d'entre nous ne vaporise l'autre avec ses moteurs à astrophage. Lorsque nous serons séparés de quelques milliers de kilomètres, nous pourrons prendre n'importe quelle direction. Quelques heures plus tard, je suis installé dans le cockpit. Les moteurs tournants sont désactivés. Je veux jeter un dernier coup d'œil. Je regarde la pointe de lumière hier avec le pétrovascope. Il s'agit de Rocky, qui se dirige vers Éride.
Bon voyage, mon pote.
Je pointe le nez de l'appareil vers la Terre et j'active les moteurs.
Je rentre à la maison.